temps, hein, dans mon cabinet, j'entends beaucoup de choses. Et donc, je réfléchis beaucoup à toutes ces questions-là et j'essaye d'apporter des réponses d'abord pour moi et puis aussi de les échanger avec d'autres.
Tout à fait, ben rien que pour notre plaisir aussi, nous allons en profiter ce matin. Nous allons donc parler de spiritualité dans cette émission. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, on ne sait pas précisément ce que c'est. Alors la spiritualité, comment la définir?
C'est pas facile hein, comme question, hein, c'est vrai. Peut-être c'est une recherche, en tout cas une quête vers quelque chose qui anime l'homme et qui est au-delà de ce qu'il peut comprendre rationnellement, donc qui touche au transcendant. Ça peut pas, on peut parler d'absolu, pour certains ce sera Dieu, mais les mots peuvent être entendus différemment suivant les uns et les autres. Donc, certains préféreront le mot d'absolu ou de divin. Pour d'autres, ça résonnera dans un mot comme Dieu.
Alors aujourd'hui, en 2004, on a vraiment l'impression que les gens sont en recherche, en quête de spiritualité continuelle, non?
Oui, c'est vrai, parce que les anciens repères sont perdus. L'ancienne religion, la religion du catholicisme telle qu'elle a été beaucoup enseignée dans le siècle dernier, enfin au début du siècle dernier, a été beaucoup bousculée. Et bon, il existe encore beaucoup de chrétiens, mais en tout cas, il y a une grande remise en question et ces repères-là, par rapport au religieux tel qu'il a été enseigné dans la société occidentale, et a été très remis en question. Donc, on est en train de faire des recherches, quoi, de chercher un peu tous azimuts, en faisant appel aussi à des religions d'autres endroits et surtout orientales.
Tout à fait. Alors c'est vrai que quand on parle de spiritualité, lorsqu'on prononce le mot pour certains et certaines, et je crois qu'ils vont se reconnaître s'ils écoutent cette émission ce matin, tout de suite, on pense à religion. Qu'est-ce qui distingue la spiritualité de la religion?
La religion, on pourrait dire, c'est la mise en forme à travers des enseignements qui ont été donnés, des messages qui ont été donnés, et après à travers comment dire, une transmission qui s'est faite à partir de textes, à partir de rituels, c'est ça la religion. Alors que la spiritualité, disons, c'est simplement la recherche, c'est l'aspiration.
La spiritualité, qu'est-ce que cela évoque pour vous, auditeurs, auditrices de France Bleu? Quelle importance a-t-elle dans votre vie? Vous ressentez-vous de plus en plus le besoin justement de cette spiritualité ou au contraire cela n'a aucune importance à vos yeux? Vous allez pouvoir nous faire partager vos réactions, vos sentiments et poser toutes vos questions à notre invitée ce matin, Marie Romanins, qui a fait le déplacement pour nous et pour vous. Un seul numéro de téléphone à composer, le 0820 20 1992, 0820 20 1992. Marie Romanins est avec nous, elle est auteure de quelques ouvrages aussi, Le Divan et le Prie-Dieu, L'Inconscient dans l'actualité et Maltraitance au travail. Elle est là aussi pour vous écouter, répondre peut-être à toutes vos questions et ce, jusqu'à 10h au numéro de téléphone du standard.
J'ai marché Madison, la 5e et Central Park, le ciel crachait des bouffées de Havane. Les bateaux de l'Hudson formaient sur l'eau comme un arbre. Téléphone aux vitres aveuglées, passer dans la fumée des chicanes. Un orchestre mendiait sous les sabots du cheval du vieux héros général Sheridan. Des forêts d'escaliers. Aux vitres aveuglées, déchirait le silence au travers des fumées. Chanteur de jazz. Brooklyn buvait d'anciennes Marilyn, de vieilles femmes. Des nuées de pédales sortaient de Carnegie Hall en soldats de carnaval en gitane. Des enfants de couleur, lunettes aveuglées, revendaient du bonheur à fumer. Autour des tours jumelles, nouvelle tour de Babel, des hélicos battaient de l'aile dans mon crâne. regard aveuglé courait dans les klaxons au travers des fumées. Chanteur de jazz, rimeur de phrases, chanteur de jazz, rimeur de phrases, chanteur de jazz. George Madison, la cinquième et son papa, le ciel craché des bouffées de Havane, rimeur de les bateaux de
de jazz, Michel Sardou, 9h21, bienvenue dans La Vie en Bleu. Nous parlons de spiritualité dans cette émission jusqu'à 10h. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, on ne sait pas précisément ce que c'est. Alors pour vous, qu'est-ce que ça évoque dans votre vie? Vous allez pouvoir nous faire partager tout cela, on en sera ravis comme on le fait chaque matin jusqu'à 10h. On est là pour vous écouter au 0820 20 1992.
Dans une maison, un homme en dit, les tuiles s'emballent, l'air chaud s'enfuit, la cheminée refoule un peu la nuit.
Vous comptez rénover votre système de chauffage? Prenez rendez-vous avec votre conseiller EDF. Les solutions Vivrelec qu'il vous présentera vous aideront à mieux maîtriser votre consommation et à mieux vivre votre maison.
Quand votre monde s'éclaire, EDF.
Du 16 au 19 décembre, c'est la 4e édition du Festival du film publicitaire de Méribel. Vendredi, entre 17 et 19h, au cœur des Trois-Vallées, retrouvez Serge Carbonel en direct pour une émission spéciale consacrée à cet événement qui fait parler chaque année un peu plus de lui. Rendez-vous vendredi dans l'heure de la sortie.
Elle est de formation psychiatre, elle est psychanalyste, elle est écrivain aussi, elle est l'auteur de 3 ouvrages, Le Divan et le Prix Dieu, L'inconscient dans l'actualité et Maltraitance au travail. Et elle l'écrit régulièrement dans Le Monde des religions. Marie Romanin, c'est notre invitée, et avec vous Marie, et c'est vrai que ça ne fait pas de mal de temps en temps, nous parlons de spiritualité. Alors certains disent que la spiritualité ne peut pas être ignorée dans le monde où plus de 2 milliards de personnes pratiquent une religion. Qu'en pensez-vous?
Ah oui, ça c'est un constat, hein, on ne peut pas l'ignorer. Hein. C'est vrai que l'athéisme a eu beaucoup d'importance dans notre pays, c'était très important. Le mouvement laïque était très important par rapport à sortir d'un carcan religieux qui pesait trop. Mais il ne faut pas ignorer qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui croient sur le monde entier, dans la planète actuellement.
Tout à fait. Alors bon, pour les pratiquants, enfin je dirais peut-être là pour le catholicisme, les baptisés, parce qu'après on pratique ou pas, le nombre estimé de fidèles est 40 millions pour le catholicisme, 4 500 000 pour l'islam, 800 000 pour le protestantisme, 700 000 pour le bouddhisme, 600 000 pour le judaïsme. Et c'est bien que l'on prononce le mot bouddhisme parce qu'il y a quand même un certain engouement aussi. On le voit d'ailleurs avec beaucoup de personnes qui vont vers le Karmaling assez régulièrement, qui n'est pas très loin de nos studios d'ailleurs ici.
Oui, c'est ça. Il y a un engouement pour les approches orientales, le bouddhisme n'étant pas considéré comme une religion, mais plus comme une philosophie. Mmh. Et sans doute parce qu'ils y trouvent là quelque chose d'assez libre. Il n'y a pas de culpabilisation par rapport à peut-être à certaines personnes qui ont souffert d'une culpabilisation au niveau du catholicisme, une culpabilisation chrétienne. Et aussi quelque chose qui est plus de l'ordre du philosophique, c'est-à-dire de quelque chose d'anthropologique. à quoi correspond cette vie sur Terre, quel est l'homme, qu'est-ce qui l'anime. Bon, ça, c'est des questions fondamentales qui peut-être auxquelles il trouve des réponses dans ces voies-là.
Comment vous expliquez qu'il y a un engouement terrible, justement, pour le bouddhisme aujourd'hui, plus qu'il y a quelques années?
Je crois justement que l'Occident a à s'ouvrir actuellement à l'Orient, parce que dans l'Occident, il y avait une perte de l'intériorité. Et on le retrouve dans ces voies orientales, c'est-à-dire ces voies orientales n'ont pas perdu l'intériorité. Et pour eux, il y a une quête qui passe obligatoirement par une recherche intérieure, par un mouvement de transformation intérieure qui se fait principalement à partir des pratiques de méditation. Et cette intériorité, l'Occident en a besoin.
Alors, on a vu qu'il y avait, c'est vrai, un retour à cette spiritualité. On assiste aussi à un retour du religieux, n'en déplaise à certains ou certaines. La spiritualité, donc, c'est le besoin de croire pour certains d'entre nous, et la curiosité, la recherche spirituelle pour d'autres, vous l'avez bien compris. Alors, l'épanouissement d'une spiritualité individuelle en dehors des institutions religieuses favorise aussi la prolifération qui tente un bon nombre de personnes. Alors, comment expliquer que tant de personnes, aujourd'hui, Marie Romanin, se frappent aussi à la porte d'une ou des sectes?
Des sectes parce qu'on a perdu beaucoup de repères et que pour l'instant on est en tâtonnement énormément dans notre société. Alors les gens ils vont un peu partout. Ils frappent un peu à chaque porte. S'il y a une fragilité importante sur le plan du psychisme, ils peuvent, alors qu'ils sont dans une quête qui est excellente par nature, ils peuvent être embarqués dans des mouvements où ils ne seront pas respectés, où ils seront utilisés au profit du narcissisme ou de quelqu'un, ou bien au profit aussi financier de certaines personnes.
Tout à fait. Alors, on a fait récemment justement une émission avec la DFI qui disait qu'il y avait un certain nombre de personnes, et tout public, hein, tout niveau social, qui se laissent entraîner dans des sectes qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui, et notamment en France.
Oui, nous sommes très perdus, en fait. Nous sommes très perdus parce que les grands repères sont partis et il y a une quête tous azimuts. Donc, évidemment, il peut y avoir le meilleur comme le pire.
Deux numéros de téléphone à composer ici à France Bleu. Nous vous écoutons. Marie Romanin, c'est notre invitée. N'hésitez pas. Hein. Nous avons aujourd'hui Marie qui nous a fait le plaisir d'être avec nous jusqu'à 10h. 0820 20 1992. Pour vous, la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous sommes là pour vous écouter, répondre aussi à un certain nombre de questions que vous vous posez peut-être là-dessus.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead.
shake me. I'm loving angels instead.
C'est Angels, 9h30, La Vie en Bleu. Aujourd'hui, nous parlons avec vous, Marie Romanins, beaucoup de spiritualité. Et nous avons déjà une réaction au Standard de France Bleu. Nous allons prendre la direction de la Haute-Savoie. Nous allons nous arrêter chez Madeleine, qui nous appelle de Saint-Gervais, qui a une question, je crois, à vous poser. Madeleine, bonjour.
Oui, bonjour.
Madeleine, je suis ravie de discuter un petit peu avec vous ce matin. On vous écoute.
J'aimerais savoir si on peut vivre sans spiritualité.
Si on peut vivre sans spiritualité, il y a des gens qui vivent sans, en tout cas consciemment, de recherche spirituelle, oui.
Sans recherche, mais involontairement, est-ce qu'on peut ?
Involontairement, qu'est-ce que vous voulez dire, involontairement, est-ce qu'on peut ?
Est-ce que ce n'est pas automatiquement en nous, ça ?
Est-ce que ce n'est pas automatiquement ?
En nous.
En nous ?
Est-ce que la spiritualité ne fait pas partie intégrante de notre personnalité ?
Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent ainsi. Pour moi, je pense ainsi. Je rejoins Jung quand il pensait qu'il y avait une fonction spirituelle à l'œuvre dans la psyché. Donc, je pense de même. Mais cela dit, d'autres pensent autrement. Et ça, c'est à respecter.
Est-ce qu'on peut avoir une spiritualité sans... Comment ça s'appelle ? Sans religion.
Est-ce qu'on peut vivre sans religion ?
Est-ce qu'on peut avoir une spiritualité sans religion ?
Oui, oui, il y a des gens qui sont en quête spirituelle sans être arrimés à une religion, disons. En général, ils vont chercher, soit dans des ouvrages, soit peut-être en rencontrer des gens dans différentes religions, mais ils ne s'arrêtent pas à une religion précise.
Pas d'encadrement rituel, disons.
Non, ou bien à certains moments, mais pas de façon rigoureuse, en suivant une voie très précise pendant longtemps, non. Il y a des gens qui font comme ça par rapport à leur quête spirituelle.
D'accord.
Madeleine, qu'est-ce que ça évoque dans votre vie, vous, la spiritualité, si ce n'est pas trop indiscret ?
Pour moi, ça fait partie de moi, c'est une partie de moi inconsciente qui me fait vivre.
Mmh. C'est quelque chose qui est important en fait dans votre
très
quotidien.
Oui. Mmh.
Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été un petit moment avec nous.
Merci.
À très bientôt.
Bientôt.
Au revoir. Madeleine nous appelle de Saint-Gervais. C'est vrai que la liaison téléphonique était quand même pas très brillante. Hein. Psychanalyse et spiritualité n'ont pas toujours fait bon ménage non plus, Marie Romanins. Hein.
Mais non, et encore maintenant. Hein, ça n'a pas beaucoup changé encore. Hein. C'est-à-dire, c'est encore deux domaines très cloisonnés. C'est vrai aussi qu'ils sont différents. C'est aussi important de les différencier, pas faire un amalgame. Mais en même temps... est-ce que pour autant il faut qu'il y ait une lutte entre ces deux domaines ? Et bien souvent, dans un domaine, on ne veut pas entendre parler de l'autre et vice-versa.
Tout à fait. Alors vous reprenez d'ailleurs dans votre ouvrage Le Divan et le prix du un siècle de relations conflictuelles entre psychanalyse et religion aussi.
Oui, c'est ça. J'essaye de montrer comment il y a eu cette lutte de part et d'autre où on ne voulait pas entendre ce qui se passait dans l'autre domaine.
Alors, dans Le Divan et le Prie Dieu, vous écrivez aussi « Mon unique propos est de faire apparaître les points de jonction entre le champ psychanalytique et le champ religieux. Comment est né ce désir ?»
D'abord, à l'intérieur de moi, parce que, bon, si on est psy, c'est parce que déjà on fait une propre démarche sur soi. Et ensuite aussi, si on écrit, c'est parce qu'on est interpellé par une question très importante. Et là, la question du cloisonnement entre psy et spirituel était importante pour moi, parce que j'étais branchée sur les deux domaines, en quelque sorte. Et je voyais que si j'étais dans un lieu... eh bien, on ne pouvait pas parler de l'autre, et etc. Et donc, je me sentais très déchirée et j'ai eu besoin de comprendre. Et donc, je me suis mis à écrire. Et donc, j'ai vu qu'en fait, il pouvait y avoir des ponts.
Alors, vous dites aussi que Françoise Dolto est la pionnière incontestée de ceux qui s'intéressent au rapport entre psychanalyse et religion chrétienne.
Oui, il y en a eu d'autres avant elle. Il y a aussi du côté jungien, il y a Drewermann, mais effectivement, chez les psychanalystes freudiens, c'est la première qui a parlé autant. Et puis, il y a des ouvrages qui sont sortis, hein, l'Évangile au risque de la psychanalyse, qui a parlé autant du lien, du pont qu'on pouvait faire entre ce qu'on découvrait dans notre cabinet en écoutant les gens, et puis ce qu'on pouvait lire en particulier dans les évangiles.
Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ceux et celles qui diraient que le besoin de croire est une névrose ?
Le besoin de croire est une névrose, bon, c'est un peu brutal comme vous le dites. Disons, il peut y avoir de la névrose dans le besoin de croire. Il peut y avoir. Ça ne veut pas dire que le besoin de croire est une névrose. Dans le besoin de croire, il y a sans doute un appel au plus profond de l'homme. Mais après, il peut se surajouter un besoin de s'accrocher mordicus à des certitudes parce que tous à l'intérieur de nous, et particulièrement en Occident, nous vivons de l'insécurité, au niveau de notre identité première. Et donc, pour se rassurer, on peut essayer de trouver des béquilles et la béquille religieuse peut en être une. Donc, ça ne veut pas dire que l'aspiration religieuse est fausse dans son ensemble, mais il peut y avoir une part qui est liée à un besoin névrotique de s'accrocher à quelque chose.
Alors, Marie organise des marches méditatives dans le désert, et notamment une dans quelques semaines, au mois de février, dans le désert mauritanien. Nous allons en parler d'ici un petit instant. Vous souhaitez l'interpeller, vous voulez nous faire partager un petit peu votre sentiment, vos réactions par rapport à ce qui se dit depuis le début de cette émission avec notre invitée Marie Romanins. N'hésitez pas à joindre le standard de France Bleu. Claire est là. C'est elle qui va vous accueillir de sa voix chaude ce matin jusqu'à 11h pour tous nos rendez-vous, et celui-ci, notre invitée, au 0820 20 1992. Dany Briand, dans les rues de Rome, et si vous souhaitez être avec nous comme tout à l'heure nous l'étions à Saint-Gervais avec Madeleine, n'hésitez pas, je vous redonne ce nouveau numéro, il faut le temps que ça s'imprime aussi, 0820 20 92.
Quand j'ai de la peine, je sais où aller, près d'une fontaine, je vais retrouver la ville de Bohème que j'ai tant aimée. Elle est italienne, elle m'a envoûté, elle est triste et belle, c'est la grande cité. Dans les rues de Rome, j'aime me promener, je vais du Forum jusqu'au Colisée. Le long des ruelles rouges et orangées, je vois les églises et les vieux palais, les sept collines semées d'oliviers. Mes amis, ne soyez pas trop tristes, si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie. À Florence, à Venise, à Rome, à Napoli, sur une terrasse, on boit des cafés, des marchandes de glace se mettent à crier. La Piazza Navona est tout agitée, et sur la Piaggio, les garçons sont beaux, les filles sont jolies, sur la Via Condotti. Lorsque la nuit tombe, on va s'habiller, on sort, on se montre, on aime se parler. Des joueurs de guitare viennent nous bercer, de belles histoires qui nous font rêver. Et sur les trottoirs, on se met à danser. Mes amis, ne soyez pas trop tristes, si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie. À Florence, à Venise, à Rome, à Napoli, pour une romaine qui m'a rendu fou, j'ai perdu la tête pour ses yeux si doux. Et sous sa fenêtre, je viens lui donner une sérénade que j'ai composée, une tarentelle que je viens vous chanter. Ti adoro, ti adoro, adoro le tue mani, ti adoro, ti adoro, adori i tuoi occhi, ti adoro, ti adoro, mangola di più. Je vois les églises
France Bleu Pays de Savoie, 9h39. Marie Romanin, c'est toujours avec nous, avec un autre coup de fil. Tout à l'heure, nous écoutions Madeleine qui est de Saint-Gervais. Nous allons rester dans le secteur de la Haute-Savoie. Vous êtes originaire d'Annecy, d'ailleurs, Marie. Hein. Nous sommes à Passy avec Hélène qui a une question à vous poser. Hélène, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir, Hélène, ce matin.
Merci. Voilà, j'ai subi des décès, quatre décès en 4 mois et demi. Et ces personnes faisaient vraiment partie intégrante de mon univers. C'était toute ma vie. Bon, cela a été très dur, mais mon frère et moi, nous avions des biens en commun. Et depuis son décès, sa femme, qui me hait, et elle est tellement agressive, tellement haineuse, que notre histoire, si je puis dire, notre saga est devenue sordide. Bon, moi, je voudrais ne pas avoir de haine, je n'en ai pas, mais je ne voudrais pas en avoir un jour. Alors, je ne sais pas comment faire, j'essaye de résister, je n'attaque jamais, je résiste, toujours poliment. Mais elles me font tellement de... d'ennui, elles attisent leur haine sans arrêt, c'est l'horreur. On dit, en parlant de ma saga, que c'est sordide, je ne sais pas, mais je voudrais vraiment m'en sortir, ne pas avoir à haïr et rester calme et digne comme je le suis depuis le départ. Alors, comment faire ?
Marie Romanins, quelle saga, Hélène, hein ?
Bonjour, Hélène. Oui, c'est vraiment très dur, j'imagine, ce que vous êtes en train de vivre.
Oui. Bon,
ça me touche beaucoup, parce que tant de décès de proches en si peu de temps, et en plus, il y a cette difficulté qui vient de surajouter.
Oui.
Ce que je peux vous dire, c'est d'être indulgente avec vous, et d'être très douce avec vous, parce que ce que vous vivez est vraiment dur. Et notamment si vous vient des mouvements de colère, mais à l'intérieur de vous, osez les vivre, vous avec vous. Votre aspiration... Attendez, j'ai pas fini. Votre aspiration à ne pas manifester de colère ou de haine par rapport à ces personnes est très juste. De rester effectivement en recul et digne, effectivement, et de résister à leurs attaques, c'est juste. Mais quand on est éprouvé comme ça, il peut se faire que ça déclenche de la colère en soi, mais c'est à vivre à ce moment-là de son côté, tout seul, et de s'autoriser. Parce que on a été éduqués, nous en Occident, je parle sur le point de vue religieux, à plutôt refouler ce qui était de l'ordre de nos pulsions agressives. Et or, ces pulsions agressives peuvent être tout à fait bénéfiques dans le sens de protection, non pas pour les déverser à gogo sur son partenaire ou sur les gens qui sont en face, mais plus pour ressentir à l'intérieur de nous ce qui est en train de se produire. On est des êtres émotionnels, et si on est attaqué, c'est juste de se sentir, soit de sentir de la peur, soit de sentir à son tour de la colère. C'est des réactions, je dirais primaires, mais parce qu'on est constitué comme ça et qui aident à notre protection. Donc, et on a plutôt été éduqués dans le sens de les refouler, et là, on se fait du tort en les refoulant. Ça ne veut pas dire qu'il faut les déverser, je répète bien, ça ne veut pas dire qu'il faut les déverser sur les autres, mais soit, quand on est seul avec soi, d'oser reconnaître, ben oui, cette personne me fait ça et ça, et ben vraiment, à certains moments, je peux lui en vouloir, mais je ne m'en veux pas d'être dans ces sentiments-là, parce qu'ils sont très humains, et d'un autre côté, je ne vais pas faire n'importe quoi pour autant, je vais rester digne, parce que ben, j'ai une aspiration plus élevé, mais à la fois avoir cette aspiration plus élevée et ne pas être dans une méconnaissance des mouvements émotionnels qui peuvent se faire en nous.
Mais je ne ressens pas de colère, je ressens simplement une espèce de désespérance,
oui.
Car de surcroît, le mensonge de cette personne, de sa fille, font que une partie de ma famille ne m'en parle plus. Et je ne sais pas du tout pour quelle raison. Je sais simplement que de multiples mensonges ont été dits pour me discréditer, pour me diffamer. Et j'ai demandé les raisons pour lesquelles on ne m'a parlé pas, mais on ne me répond pas. Alors cela me désespère, m'agresse, et je voudrais, ne serait-ce que par des lectures, car fort heureusement je suis entourée d'amis très précieux, mais je suis seule maintenant, et peut-être que des lectures m'aideraient à plus réfléchir sur ma façon d'être et de me comporter pour sortir de cela.
Ce ne serait pas des lectures, parce que là, vous essayez de résoudre la question d'une manière rationnelle, par le mental. Oui. Et en fait, c'est plus, je vous conseillerais plutôt d'aller parler soit avec des amis, effectivement, soit éventuellement avec quelqu'un professionnel de l'écoute, pour dire ce que ça vous fait. Parce que c'est sûr que c'est une violence que vous recevez. Et à ce moment-là, il faut plus un exutoire pour en parler, pour la dire à quelqu'un, la sortir de soi. C'est plus ça qui est utile que des lectures.
Sans doute, oui. Parce que ce que je regrette le plus, c'est de ne pas pouvoir pleurer. Je n'ai jamais pu pleurer.
Et oui, c'est ça, vous voyez. Il y a un laisser-aller émotionnel qui a besoin de se faire. Et vous dites que, déjà, vous dites, ça me désespère. C'est déjà beaucoup que vous puissiez le dire. Puis en plus, le dire là à l'antenne. Hein. Donc ça, c'est juste, c'est de continuer dans cette voie-là, de dire votre peine de tout ça.
Voilà, vous n'arrivez peut-être pas à pleurer, Hélène, mais non. Vous arrivez quand même à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et c'est pas forcément...
C'est tout à fait voilà. Juste. C'est déjà bien de pouvoir mettre
exactement.
Des mots. Et là, vous le faites à l'antenne, mais peut-être essayez de trouver quelqu'un privilégié avec qui vous pourriez parler.
Hélène, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La spiritualité, c'est quelque chose qui vous aide, donc comme j'ai bien compris, dans votre vie au quotidien.
Oui, mais une spiritualité assez diffuse, c'est-à-dire que je ne crois pas vraiment en Dieu, mais je pense que la vie a un sens et qu'il est important d'essayer de s'élever entre guillemets. Voilà.
Très bien, merci beaucoup en tous les cas, c'était joliment bien dit. Marie Romanins. À très bientôt Hélène, au revoir. Voilà. Nous avons aussi une réflexion qui va nous être partagée par Evelyne qui est à Ugine. Bonjour Evelyne.
Oui, bonjour.
On vous écoute Evelyne.
En écoutant votre émission, je me suis dit en fait que toujours dans nos sociétés, on se caractérise par nos possessions en disant « j'ai » et on ne dit jamais « je suis ». C'est très difficile de répondre à cette question « je suis, qui sommes-nous » en fait. C'était un petit peu au sens de ma réflexion en vous entendant parler.
Ah ben c'est une bonne réflexion, elle me plaît bien, parce qu'effectivement la question de fond c'est le « qui suis-je ».
Ben oui, mais ça, y répondre, c'est pas si simple.
Ah oui, on peut mettre toute une vie à réfléchir sur cette question-là.
On trouve peut-être jamais la réponse. Hein.
C'est une question zen.
C'est une question vaine.
Oui.
Bon, eh ben, tant pis, je continuerai à réfléchir toute seule.
Evelyne, quand je vous dis spiritualité, vous pensez à quoi ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce qu'elle a un sens aussi dans votre vie ?
Eh ben voilà, c'est qu'effectivement, bon, moi j'étais croyante pratiquante jusqu'à à peu près mes 20 ans, et me rendant compte qu'effectivement, on parle plus en termes de culpabilité qu'en termes de bien-être, je me suis éloignée de la religion. Aujourd'hui, j'approche des 50 ans et en fait, je suis en train de me dire, moi, j'ai pas envie de relier spiritualité à religion. J'ai envie de trouver plutôt une autre dimension à ce que je peux être et ce que je peux éventuellement apporter aux autres. Mais pas en termes de religion, quoi.
Oui.
Enfin, pas.
C'est ce que permet notre époque. Certains ne voient pas ça d'un très bon œil ou trouvent qu'il faut s'inscrire dans une voie religieuse pour faire une bonne quête spirituelle. Mais moi, je pense pas que ça soit forcé et notre époque permet justement qu'on ait une quête spirituelle en prenant du recul par rapport au religieux.
Evelyne, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre petite réflexion, ma foi bien sympathique ce matin.
Merci.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir, Evelyne nous appelait d'Ugine. Hein, de très bonnes réactions, en tous les cas, au standard de France Bleu Marie. Hein.
Oui.
Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très élevées, parfois au niveau spirituel, mais alors, quand on voit comment ils se comportent au quotidien, c'est hallucinant. Hein.
Voilà, c'est pour ça qu'il est important de faire un peu du discernement dans tout ça, puisqu'on a dit répéter que les repères sont partis, mais du coup, on est dans beaucoup de flottement avec, je disais, le pire comme le meilleur qui peuvent arriver. Et ce qu'on peut voir, effectivement, c'est dans dans des voies spirituelles, dans des voies religieuses, certains qui s'engagent vraiment très fortement. Et là, bon, on ne peut qu'être admiratif devant cet engagement important, mais qui croient se développer, s'élever. Et quand on les regarde au point de vue quotidien, eh bien, ils ont des comportements effroyables dans le quotidien. Et c'est méconnaître effectivement que dans cette quête spirituelle, il peut y avoir beaucoup besoin, en tout cas chez nous occidentaux qui avons des problèmes d'identité assez importants, il peut y avoir importance d'un nettoyage psychologique, donc d'aller voir un petit peu dans ces failles, ce que Jung a appelé les complexes, des nœuds dans la psyché qui font que même si on s'élève beaucoup, et je dis bien qu'il peut y avoir beaucoup d'ouverture au niveau spirituel, une ouverture authentique, et cependant qu'il y ait ces espèces de nœuds sur le plan psychique qui font comme un élastique, quoi, qui ramènent dans des zones d'ombre et qui se manifestent dans le comportement des individus. Et certains individus croient être très avancés et bon, oui, il y a d'une certaine manière une grande ouverture, mais d'un autre côté, sur le plan de l'incarnation, de la vie de tous les jours, eh bien, il y a beaucoup à voir.
Tout à fait. Alors, tout à l'heure, par rapport à ce qu'Hélène disait, et elle nous faisait partager une réflexion extrêmement intéressante, vous avez dit que c'est vrai, on nous avait éduqués à refouler les pulsions agressives, mais on nous a aussi éduqués à pardonner. Du moins à essayer de pardonner.
Oui, alors que le pardon, c'est quelque chose de très, très difficile.
Ah oui, exactement. Ouais.
Parce que je le vois avec mes patients qui ont des histoires évidemment douloureuses puisqu'ils viennent me voir et qui ont des marques très fortes liées à leur passé. Et avant que tout ça soit nettoyé, soit compris, qu'il est dépassé et qu'ils en arrivent après à comprendre pourquoi ce mal-là leur a été fait et donc arriver à un certain détachement qui permet de relativiser et à ce moment-là de commencer à pardonner, des fois il faut des années et des années.
Ah, mais c'est difficile.
Et des fois c'est même pas possible, tellement c'est dur.
Comment on fait pour pardonner?
Mais déjà traverser tout l'émotionnel, retraverser son histoire, quoi. Aller la rencontrer, son histoire. Et puis laisser venir tout ce qui vient avec et tous les sentiments, effectivement, qui peuvent être liés, de peur, de grande tristesse, de colère. Et c'est au fur et à mesure que ça s'est reconnu, admis, qu'il y a un certain détachement qui peut être fait. Dans ce détachement, effectivement, la voie spirituelle peut aider parce qu'elle aide à relativiser. Et que petit à petit, effectivement, la personne s'extrait de tout ça. Et c'est seulement à partir du moment où elle est suffisamment extraite de tout ça qu'elle peut regarder avec plus d'indulgence et de compassion en disant bah « oui, ceux qui m'ont fait ça, ils étaient pris eux-mêmes dans une histoire difficile ».
Tout à fait. Alors, vous organisez des ateliers, vous, Marie Romanins, hein, est-ce qu'on peut en dire quelques mots aussi, avec notamment Rémi Maisonneuve?
Oui, Rémi Maisonneuve qui a été moine cistercien et qui est sorti du monastère, qui est prêtre maintenant. Et puis aussi avec Jean-Michel de Goumois, qui est psychanalyste et moine zen, parce que j'avais l'intuition très forte que d'amener les deux dimensions, et le psychologique et le spirituel, pouvaient être d'une grande aide aux personnes. Et donc j'ai commencé à élaborer des sessions où il y avait les deux dimensions, où en général on se base sur des textes bibliques ou évangéliques, et à partir de là on les explore, avec évidemment la voie spirituelle, puisqu'il y a ces partenaires qui eux sont très engagés sur le plan spirituel, et aussi la voie psychologique, pour justement, quand on tombe sur ces nœuds psychiques que je décrivais tout à l'heure, on puisse avoir les outils psychologiques, parce qu'ils sont très importants, les outils psychothérapeutiques et psychanalytique pour aller comprendre ce qui se passe là et essayer de commencer à dénouer.
Alors vous ne vous arrêtez pas que là parce que vous organisez aussi des marches méditatives dans le désert mauritanien. Comment l'idée est venue et pourquoi le désert mauritanien?
L'idée est venue parce que j'ai fait une rencontre très, très forte en Mauritanie, d'une part avec le désert et surtout avec les gens du désert. Et j'ai donc des contacts privilégiés là-bas. Et je trouve qu'en plus, se mettre dans un lieu qui est fort au point de vue nature, hein, qui nous décape beaucoup, et aussi avec des gens qui ne fonctionnent pas comme nous, qui n'ont pas une culture comme la nôtre, et donc qui nous obligent à revoir nos conditionnements, on ne revient pas comme on est parti de ces pays-là. Donc je trouve que c'est un outil très très bon pour aider les gens dans leur processus d'évolution.
Alors c'est du 20 au 27 février et dites-vous bien que si vous êtes peut-être intéressé soit par ces ateliers ou soit par ces marches méditatives, vous allez toujours pouvoir obtenir des renseignements complémentaires auprès de moi. J'aurai vraiment un plaisir de vous donner les coordonnées de Marie. Nous allons prendre très rapidement une réaction de Bernadette de Moutier. Nous allons lui demander d'être rapide. Je crois qu'elle va bien le comprendre parce qu'il est déjà 9h54. Bernadette, on vous écoute.
Bonjour à toutes les deux d'abord. Et puis moi, je dois dire une réflexion très, très psychologique, c'est-à-dire que on est tous innocents, mais on meurt tous coupables.
Ah, on est tous innocents et on meurt tous coupables. Sauf si on fait peut-être beaucoup de travail sur soi et qu'on se dégage peu à peu de la culpabilité.
Mais je pense que c'est la société qui nous rend comme ça. Parce qu'un enfant qui naît, il a rien, je veux dire. Bon, mais quand on commence à grandir, bon, que ce soit, moi je parle du côté religieux, il y a des interdits, tout ça, et puis finalement, on est pris dans un étau, dans quelque chose qui peut éventuellement nous faire perdre notre personnalité.
Mais oui, voilà. Bien sûr.
Voilà, c'est pour ça que je dis toujours, on est innocent, mais on meurt coupable.
Oui, je nuancerai, bien sûr. Non, mais c'est vrai, on a tout un travail de dégagement à faire. Lita Basset a écrit des livres remarquables là-dessus, mais sur comment aussi on participe à cette culpabilité. Parce que je veux dire, bien sûr, on a ce qu'on a reçu de par la société dans laquelle on est arrivé au monde, on est né, on a été éduqué dans cette société, mais en même temps, on y participe, on se la fait sienne après. Donc c'est tout ce travail de dégagement qui est important à faire et qui fait que peut-être on peut mourir un peu moins coupable.
Voilà, non, mais moi je dis je me sens pas coupable, mais je veux dire que on en arrive à cette... enfin moi je suis toujours arrivée à cette situation en pensée, vous voyez, je me suis dit bon ben on est tous... on est innocents mais on meurt coupable.
Bernadette, la spiritualité, elle a une importance dans votre quotidien ?
Tout à fait, tout à fait, mais moi je me sens bien dans ma peau. Parce que j'ai fait un travail sur moi-même pour des raisons familiales. Mmh. Et aujourd'hui, à 59 ans, je me sens bien dans ma peau. Ah, vous voyez, je veux dire que, bon, j'ai été dans le milieu religieux où j'ai été complexée pendant des années, des années, des années. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses parce que j'ai vu la mort de près. Et je me suis dit finalement, je suis comme je suis. L'essentiel, c'est que je sois bien avec tout le monde.
Exactement, c'est bien dit.
Et je ne juge personne dans la vie.
C'est important aussi de ne pas juger.
Parce que chacun a des droits. Chacun, à partir du moment où vous n'ennuyez personne, chacun a des
tout
droits, des droits de penser, des droits. Les droits, je veux dire, chacun réagit selon sa vie, selon son chemin.
Bernadette, voilà. Je vais être obligée de vous laisser.
Oui, en tout cas, merci pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage qui montre un chemin d'acceptation de soi et de l'autre. Merci.
Ah oui, ça c'est très important.
À très bientôt. Merci beaucoup Bernadette. C'est vrai qu'elle a dit une chose importante, il est important de ne pas juger. De toute manière, on n'est pas accrédité pour juger qui que ce soit. Exactement. Donc merci à Bernadette, Madeleine, Hélène et Evelyne. Vous voyez, après les témoignages arrivent en fin d'émission, on a eu quand même de très bonnes réflexions, très bonnes réactions. S'en féliciter. Il y a encore beaucoup de choses à dire, Marie, mais ça nous donnera peut-être l'occasion de nous revoir un de ces jours. En tous les cas, j'en serais ravie. Donc, la marche méditative, c'est du 20 au 27 février. Si vous voulez avoir d'autres renseignements concernant les ateliers de Marie, vous appelez le 04 50 66 28 06. C'est ça, votre numéro de téléphone. Hein, 04 50 66 28 06, elle est à Anne-Sylvieux. Merci beaucoup, Marie. J'ai pris beaucoup de plaisir à aller à votre rencontre et puis au plaisir de se retrouver une fois de plus ici sur l'antenne. À bientôt.
Merci, Karine.
Au revoir.